L'eau des hommes et les hommes de l'eau. Les mardis de l'été 2022 à Saint-Jean-de-Luz, un cycle de conférences proposé par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan. Stratégie de pêche durable des pêcheurs basco-landais, voici la première partie de l'intervention de Nicolas Susperegui, scientifique chargé de mission au comité des pêches 64 et 40. Dans cette première partie, Nicolas Susperegui va nous parler de la filière de la pêche locale et des actions réglementaires. Son intervention est précédée du mot d'accueil de l'abbé Lionel Landard.
Je vous remercie d'être parmi nous pour cette première conférence du cycle des mardis de l'été. Cette année, nous avons choisi comme thème de conférence l'eau. C'est un thème que nous aurions voulu honorer il y a déjà 2 ans, mais nous étions en 2020, et comme vous le savez, en 2020, beaucoup de choses ont été vaines. Et puisque le Covid nous a empêchés de pouvoir accéder à nos désirs et à nos prétentions aussi, et donc de fait, nous n'avons pas pu réaliser les séries de conférences qui étaient envisagées. Alors, comme on recommence cette année, puisque les choses vont un peu mieux, on s'est dit qu'on allait démarrer cette année 2022 avec de nouveau le même thème, donc l'eau des hommes et les hommes de l'eau. Et pour démarrer la première conférence de ce cycle, il y en aura 4 seulement cette année, on démarre tout doucement, eh bien j'ai la joie d'accueillir avec nous ici dans cette église Saint-Jean-Baptiste Nicolas Susperegui, et qui est un local de l'étape, hein, c'est ça comme on dit, hein, dans le Tour de France. Hein. Et donc, scientifique, ancien enseignant, nous nous sommes connus à l'époque à Villa Pia, puisqu'il a enseigné à Villa Pia quand j'étais moi-même aumônier là-bas, et chargé de mission au comité de pêche 64-40. Alors, Nicolas m'a dit tout à l'heure qu'il était bavard, donc je ne vais pas l'être trop de mon côté, et je vais lui donner ce micro. Et le titre de sa conférence est « Stratégie de pêche durable des pêcheurs basco-landais ». Vous voyez, c'est déjà marqué devant vous. Merci beaucoup, très bonne conférence.
Merci, bonsoir à tous. Donc en effet, le thème de la conférence, c'est la stratégie pêche durable qu'on a mis en place au comité des pêches. Donc nous, on a un comité des pêches qui a pour limite administrative le département 64 et 40. Donc on a des responsabilités d'Andaï à la frontière du bassin d'Arcachon, on va dire. Ce que je vous propose, c'est 4 temps. C'est d'abord de vous présenter la filière pêche locale aujourd'hui au Pays Basque. Ensuite, toutes les actions qui sont mises en œuvre, alors qu'elles soient réglementaires ou hors du cadre réglementaire, sur la gestion de la ressource. Ensuite, sur la valorisation des produits. Nous, on part du principe que pêcher moins, mais pêcher mieux et vendre mieux, c'est aussi bien. Et puis aussi sur tout le rôle et la responsabilité environnementale qu'ont les pêcheurs locaux. Donc je vais commencer par la filière. Tout d'abord, pour vous juste rappeler en une diapositive, il y a des gens qui sont beaucoup plus, je vois Mickaël qui est là, il pourrait vous en parler pendant des heures, de l'histoire de la pêche locale. Mais c'est un héritage en fait, la pêche locale. C'est vraiment intimement lié à l'histoire locale et particulièrement à l'histoire de Saint-Jean-de-Luz. Donc au XVIIe siècle, avec l'avènement de la pêche à la baleine, XVIIe et XVIIIe siècle, les départs vers Terre-Neuve et la pêche à la morue, XVIIIe siècle avec le développement de la pêche à la sardine, et puis au milieu du XXe siècle, on a le développement de la pêche au thon à la canne, à partir de 1949. C'est des bateaux que vous avez encore dans le port, il y en a 4 qui pratiquent encore cette pêche artisanal, hein. Il y a, on prélève un poisson un à un, c'est un combat entre l'homme et le poisson. Une technique de l'appât vivant, donc on verra tout à l'heure, je vais rentrer dans la technique. Et une période très faste et très glorieuse, hein, puisque Saint-Jean-de-Luz a été le premier portonnier et sardinier de France, avec des apports de pêche fraîche et des apports de pêche congelée. Une création d'une vingtaine de conserveries au moment, à l'apogée de la pêche locale, et puis le développement des campagnes hivernales au thon tropicaux à Dakar. Donc on avait des campagnes estivales de thon rouge, de thon blanc ici, et puis ensuite sur l'hiver, il y avait des départs vers Dakar. La filière pêche, on parle souvent des pêcheurs, mais en fait c'est une filière qui est très interdépendante, c'est un petit écosystème. Donc évidemment, au centre, il y a le pêcheur, hein, c'est le producteur, c'est le premier maillon de la chaîne. Donc moi, je travaille à l'organisation professionnelle, c'est l'organisme central, le comité des pêches, c'est l'organisation professionnelle. Et puis autour de cette organisation professionnelle, on va avoir tout un tas d'organismes fédérateurs qui vont graviter et qui vont travailler ensemble. Le premier, c'est, vous l'avez en haut, c'est une organisation de producteurs. Donc c'est l'organisation de producteurs pêcheurs d'Aquitaine qui, lui, s'occupe plutôt de la gestion des quotas et de la commercialisation des produits. Ensuite, on a la criée de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg, qui est placée côté Cibourg, où donc on a la majorité des produits qui sont débarqués, qui sont vendus dans la halle à marée. Ensuite, on a une coopérative maritime, c'est une coopérative de services, qui, elle, va, par exemple, fournir la glace au bateau, le carburant, les équipements, le matériel, des centres de gestion. Il ne faut pas oublier qu'en fait, en général, derrière un bateau de pêche, c'est une entreprise de pêche, avec un armateur, un patron, des matelots, des employés, donc des fiches de paye, etc. Tout ce qui se trouve à terre, en fait, se passe aussi en mer. Un organisme de formation avec le lycée maritime. Des organismes scientifiques, on a l'IFREMER Anglette, Capena, l'Université de Pau des Pays de l'Adour. Ensuite, on a des concessionnaires de ports et des propriétaires de ports. Donc là, en général, c'est plutôt des collectivités. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis un syndicat de marailleurs, une organisation professionnelle de poissonniers, et puis de nombreuses associations comme les femmes de marins, Waina, etc. Donc c'est vraiment un écosystème qui se développe autour de la pêche. Très rapidement aussi, sur le territoire, on a recensé donc de la filière aval vers l'amont, au-delà des structures de pêche, 160 entreprises de la filière, ça représente à peu près 1000 équivalents temps plein. Donc il y en a 800 en mer et 200 à terre. Et puis on a 650 emplois indirects, dont 205 qui sont directement liés à l'activité des navires immatriculés BA. C'est la petite particularité des bateaux qui sont rattachés à notre entité administrative, c'est que tous les bateaux commencent par BA pour quartier maritime de Bayonne en fait. Et on estime qu'en fait, un emploi en mer va créer 1,7 à 1,8 équivalents temps plein sur la zone d'étude à terre. Pour rentrer maintenant un peu dans la technicité de la pêche, demain j'achète un bateau, ne pensez pas que j'ai le droit d'aller n'importe où, n'importe quand, que j'ai le droit de pêcher ce que je veux et quand je veux, c'est pas vrai. Il y a, en fonction de la taille des navires, en fonction de l'équipement de sécurité des navires, on va avoir des droits, un genre de navigation et une catégorie de navigation. Donc le genre de navigation, on va avoir la petite pêche où on sera autorisé à faire des marées de moins de 24 heures. Pêche côtière, on peut partir entre un jour et trois jours. La pêche au large, on peut partir au-delà de trois jours. Et la grande pêche, c'est même au-delà de 20 jours. Donc vous imaginez bien que la taille des bateaux, en fonction de ce genre de navigation, ne va pas être la même, et l'équipement de sécurité, de survie, etc. à bord ne sera pas du tout le même, et le nombre d'équipages ne sera pas du tout le même non plus. En termes de catégorie de navigation, les cinquièmes catégories, elles ne peuvent pas quitter les eaux abritées. Qu'est-ce qu'on entend par eaux abritées? Typiquement la baie de Saint-Jean-de-Luz. De tout point qu'on soit dans la baie de Saint-Jean-de-Luz, on voit la terre autour de nous. On ne peut pas sortir au-delà des digues. Autre exemple, l'estuaire de la Dour. On peut travailler dans l'estuaire de la Dour, mais on ne peut pas sortir de l'estuaire de la Dour. En quatrième catégorie, on peut sortir que jusqu'à 5000 d'un port. Donc là, ça va être plutôt les petites unités. On ne le voit pas très bien là, mais c'est représenté par des arcs de cercle. C'est la zone où ils sont autorisés à travailler. Ensuite, en troisième catégorie, on peut aller jusqu'à 20 000 de la terre. Donc là, c'est le trait orange, en sachant qu'on a une petite particularité ici, c'est qu'on a une frontière. On a une frontière entre la France et l'Espagne. Et donc, ceux qui peuvent aller jusqu'à 20 000, ils peuvent travailler sur cette bande-là. Et puis ensuite, on a des catégories de pêche plus grandes et qui correspondent en fait à la pêche hauturière de plusieurs jours. Localement, aujourd'hui, on a sous notre responsabilité 156 navires qui composent la flottille. On a eu une baisse d'effectifs des navires, il y a eu une crise fin des années 90, début des années 2000. Et puis aujourd'hui, on a une stabilisation du nombre de navires, voire une petite inflexion positive, avec la particularité que c'est plutôt des petits navires côtiers qui se mettent à la pêche aujourd'hui. Dans ces 156 navires, on va distinguer deux grandes familles. On a 107 navires qui sont sur le territoire. Quand je parle du territoire, c'est entre Hendaye et principalement Cabreton. Il y a un bateau à Mimizan, mais entre Hendaye et Cabreton, il y a 107 navires. Sur ces 107 navires, on a plus de 80% des navires qui font moins de 12 mètres. Donc c'est des petites unités. 77% qui sont armés en petite pêche, donc qui font des marées à la journée. Et en termes de métier de pêche, c'est essentiellement des filayeurs et des ligneurs. Et puis, il y a une part aussi de pêcheurs estuariens dans l'Adour. Les principales zones exploitées par ces navires, c'est le littoral basque-hollandais, c'est l'Adour, et c'est le proche golfe de Gascogne, on va dire le sud du golfe de Gascogne. À cela, on a 49 navires que l'on a hors du territoire, donc c'est ceux qui sont positionnés sur le nord de l'Espagne, en Bretagne, en Sud-Irlande ou en Nord-Écosse, qui, eux, par les quotas qu'ils détiennent, ont des droits de pêche, on verra les quotas tout à l'heure, ont des droits de pêche dans ces mers-là, en mer Celtique, dans le golfe de Gascogne, en mer du Nord, pour certains. Donc là, c'est plutôt des navires, des grosses unités, on va dire, mais on est toujours le petit ou le gros de quelqu'un, parce qu'on a 94% des navires qui mesurent plus de 20 mètres, mais on a un navire qui mesure 38 mètres. En fait, on a dans ces navires-là 95% qui sont entre 22 et 30 mètres. Donc c'est des gros bateaux pour nos petits bateaux locaux, mais c'est des petits bateaux par rapport à des pêches industrielles que l'on voit souvent à la télé. Donc eux, ils sont plutôt armés en pêche au large, ils peuvent aller au large, donc avoir des marées plus très très longues, s'éloigner assez loin de la côte, donc vraiment exploiter le milieu du golfe de Gascogne. Et en termes de métier, on a plus de la moitié qui sont des filayeurs, il y a 27% de chalutiers et 16% de ligneurs, c'est les principaux métiers représentés par cette flottille-là. Et les zones d'exploitation, là on n'est plus du tout dans le sud du golfe de Gascogne, on est plutôt sur la mer Celtique, les côtes du Royaume-Uni, le golfe de Gascogne, mais plutôt la partie nord, et pour certains bateaux qui sont situés en Écosse, la mer du Nord. Cela dit, il y a des enjeux et des problématiques communes à ces deux genres de flottilles, que les gens ont tendance à malheureusement opposer, mais qui sont complémentaires. Les problématiques communes, c'est qu'il y a un outil de production qui est vieillissant, il y a des règles européennes qui interdisent de construire de nouveaux navires, donc on ajoute des contraintes d'hygiène, de sécurité à bord sur des vieux navires, alors que l'ergonomie voudrait qu'avec des navires assez nouveaux, même en économie de carburant, etc., ça pourrait être intéressant, mais la règle ne le permet pas. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a une flottille qui est vieillissante. On a aussi une population d'armateurs qui est vieillissante, donc ça c'est des gros enjeux pour nous. Et puis un renouvellement des générations qui est compliqué. Notamment sur les navires qui partent plusieurs jours en mer. Sur la flottille côtière, c'est moins le cas. Donc là on va rentrer petit à petit dans le territoire. On a 5 ports principaux. Bon, celui de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg, on a à peu près 43 unités. On a l'Adour, on va retrouver 25 bateaux. Cabreton, on a 19 bateaux, que des filayeurs à Cabreton. Hendaye, où on a 6 bateaux. Et puis ensuite, on va avoir quelques bateaux qui vont être répartis entre l'embouchure de Bayonne, de l'Adour à Bayonne-Anglette, et puis sur Mimizan. Donc tout à l'heure, je vous disais, c'est une flottille essentiellement de bateaux inférieurs à 12 mètres, qui a une moyenne d'âge de 27 ans. C'est quand même, ça commence à faire. Et avec tous les types de métiers qui sont pratiqués. Et sur les 800 marins, rappelez-vous, initialement, il y en a 270 qui sont sur le territoire. Ça veut dire que le reste, ils sont sur les bateaux qui travaillent plus au large. Dans les métiers, rapidement, donc sur la flottille du territoire, on va avoir les métiers du filet, c'est la plus grosse, c'est 67 unités sur 107. C'est des bateaux qui vont de 6 mètres à 35 mètres pour le plus gros. Le filet, c'est une technique de pêche qui est sélective parce que, en fonction de la saison, en fonction du fond, c'est-à-dire qu'on pose sur de la roche, du sable ou de la vase, en fonction de la position du filet, qu'on le pose sous la surface, en pleine eau ou au fond, et en fonction de la maille du filet, on va quand même aller sélectionner quelque part, cibler une espèce précise. Typiquement, en ce moment, on est sur la période du rouget. On va aller sur de la petite maille posée au fond, sur des fonds plutôt rocheux. Si on veut chercher de la sole, Ce sera un autre type de filet avec une maille un peu plus large et sur des fonds sableux. Donc, deux grandes catégories de filets, les filets de trémaille. Donc là, il y a trois nappes de filets. Et en fait, le principe, c'est pour les poissons plats essentiellement, ou la baudroie. Donc poisson plat, c'est plutôt la sole, le barbu, le turbo. Où en fait, là, le poisson va s'emmêler dans les trois mailles de filet. Et donc ça, c'est des pêches qui se font plutôt sur le fond. Et ensuite, les filets droits, où en fait, le poisson, par rapport à la taille de son visage, on va dire, va se coincer les ouïes dans un filet droit, une seule nappe. Et donc là, ça va être des poissons de forme plus classique, type bar, maigre, merlu, rouget, etc. Ensuite, l'autre métier le plus représenté, c'est la ligne. C'est la ligne et la palangre. Donc là, on a 32 unités, dont 24 qui sont sur le territoire. C'est des bateaux qui peuvent aller de 6 mètres à 38 mètres. Donc sur le territoire, c'est de 6 mètres à 14 mètres maximum. Les lignes, donc vous voyez là, c'est typiquement ce qui se passe pour la pêche au merlu. On a des palangres qui sont posées sur le fond, avec des bouées qui remontent ici, et puis des hameçons qui sont appâtés bien souvent avec des petits poissons pélagiques. Donc on laisse ça 8h, 12h, 24h, et on vient relever le lendemain matin le produit de la pêche. Donc quand on va les poser sur le fond, on va plutôt cibler des espèces type merlu ou congre. Quand ce même dispositif est posé sous la surface, on va plutôt cibler des poissons type bar, dorade royale ou du sar. Ensuite, on a les métiers du chalut. Donc sur les métiers du chalut, il y a 22 bateaux qui font du chalut. Donc ça représente 14%, et 9 qui sont sur le territoire. C'est des bateaux qui vont de 12 à 37 mètres, 25 mètres pour celui le plus grand du territoire. Là encore, c'est un métier qui a été longuement décrié, mais des techniques de pêche, c'est sûrement le métier qui a fait le plus d'efforts sur les 20 dernières années en termes de sélectivité, même si tout n'est pas encore parfait. Là encore une fois, on a deux types de chaluts, le chalut pélagique qu'on va traîner en plein eau. Donc là, on va cibler plutôt des espèces. Donc là, la maille va jouer. Hein. Vous imaginez bien que la maille de l'anchois et la maille du thon blanc, par exemple, c'est pas du tout la même. Mais on va plutôt aller cibler des espèces qui se situent en plein eau. Alors qu'à contrario, le chalut de fond, lui, va aller sur le fond et chercher des espèces du type merlu, baudroie, merlan ou sole pour certains. Dans les métiers de pêche, on a aussi les métiers du casier. Alors contrairement en Bretagne, où il y a des bateaux qui sont spécialisés dans le casier, qui font ça toute l'année, le casier, c'est plutôt une technique d'appoint pour les fileyeurs ou les ligneurs. Donc c'est une activité complémentaire, et donc là, on va cibler plutôt les crustacés. Donc dans les crustacés que l'on débarque ici à Saint-Jean-de-Luz, on va retrouver l'araignée, le tourteau, le homard, la langouste, la sèche. Alors, la sèche, c'est pas un crustacé, c'est un céphalopode. Le congre, les trilles, la crevette et la langoustine. Et puis la spécificité de la pêche estuarienne, la pêche dans la Dour, avec deux grandes techniques. Les métiers du tamis, qui vont cibler la levaine d'anguille, la civelle ou la pibale, localement. Et puis la pêche au filet dérivant, qui eux vont plutôt cibler des espèces du type alose, saumon, truite de mer ou lamproie marine. Et puis on peut avoir aussi un petit peu de pêche au casier pour pêcher de la crevette blanche qui est spécifique au milieu estuarien, on en retrouve aussi dans l'estuaire de la Gironde, ou de l'anguille jaune, même si aujourd'hui cette pêche-là, elle est plus réalisée. Et puis on a des spécificités locales, des choses qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Donc le métier de la bolinche. Le métier de la bolinche, on a 8 navires qui sont encore en activité, dont 7 sur le territoire. Là, c'est des bateaux qui vont de 12 à 24 mètres. La bolinche, c'est quoi? C'est un filet tournant, coulissant. Donc en fait, on repère un banc. Donc on va plutôt cibler des espèces qui vivent en banc, là, à ce moment-là, et des espèces qui vivent en plein eau. Et donc on va repérer un banc, on va l'encercler. Donc pour vous dire, la circonférence fait 300 mètres, donc c'est pas non plus des kilomètres. Et par un système de fermeture, on va fermer la poche par le bas et on va remonter petit à petit la poche vers le haut. Ce qui permet d'avoir un poisson vivant et extra frais, parce qu'il n'y a pas plus frais qu'un poisson vivant. Donc là, c'est plutôt des espèces type anchois, sardines, chinchards, et puis maquereaux. Donc, c'est des petits pélagiques qui vivent en banc. Et puis on peut avoir, comme on a eu l'année dernière, par exemple, un coup presque miraculeux sur du maigre, qui était en boule. Autre spécificité, j'en ai parlé tout à l'heure, la pêche du thon rouge à la canne, à l'appât vivant. Alors, qui dit appât vivant dit qu'avant d'aller pêcher à la canne, il faut qu'on aille faire un tour à la Bolinche pour récupérer un petit peu d'appât. Donc, selon la saison, en ce moment, c'est plutôt l'anchois. Donc, selon la saison, on va faire un petit coup de Bolinche pour avoir de l'appât vivant, qu'on met vivant dans les viviers. Et ensuite, on va aller à la recherche du banc de thon en chasse. Donc là, on a 6 unités qui travaillent sur le territoire, des unités toujours de 12 à 24 mètres. C'est les mêmes bateaux hein, qui font la Bolinche. Et qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'à la surface, on a les signes de chasse, ben, le bateau il va s'approcher le plus discrètement possible. Il va commencer par, ce qu'on dit, fixer le banc. C'est-à-dire qu'on va lui donner à manger. Dans le vivier, je vous rappelle qu'on a de l'appât. Et on va essayer de le fixer là, de le garder là pour qu'il continue sa chasse. Et pendant ce temps-là, on va avoir 3, 4, 5, 6 gars qui, eux, vont armer des cannes avec les mêmes appâts vivants et qui vont les jeter au milieu. Et donc, dans le lot, il y a certains thons qui vont croquer le mauvais appât et qui vont se faire avoir comme ça. Donc, on a des cannes qui peuvent aller de 3 à 6 mètres. On a aussi la petite particularité, c'est d'avoir des jets d'eau sur le côté du bateau, tout simplement pour masquer la vue. Pas que les thons qui sont en pleine chasse, enfin, il faut voir, hein, c'est frénétique hein, comme pêche, ils sont complètement excités et les jets d'eau masquent en fait la vue des pêcheurs. Et c'est une pêche de surface. L'autre particularité du coin, et c'est le produit phare de Saint-Jean-de-Luz aujourd'hui, c'est la pêche du merlu de ligne. Donc là, on a 15 unités qui travaillent sur le territoire, elles sont toutes inférieures à 12 mètres, elles font toutes des marées de 24 heures. Et donc là, on va travailler sur des lignes de fond. Et enfin, dans la diversification d'activités, pour les petits navires, c'était arrivé au milieu des années 90. Vous avez vu, on a plus de 80% de bateaux qui sont inférieurs à 12 mètres. Donc des petits bateaux qui sont confrontés l'hiver, dans le golfe de Gascogne, à des houles qui peuvent faire 8, 9 ou 10 mètres. Si on sort, bien souvent, c'est la houle qui gagne, pas le bateau. Donc, en diversification d'activités, au milieu des années 90, a été développé le ramassage des algues. Ça se faisait déjà à terre, depuis le début des années, au moins depuis le début du XXe siècle. Et donc les pêcheurs se sont dit, ben tiens, il doit forcément y avoir une partie qui se détache, qui va se déposer sur les plages, mais il doit y avoir une partie qui doit se sédimenter dans des cuvettes sableuses. Et donc il y a quelques aventuriers qui sont partis, et ça a été assez concluant. Et du coup, aujourd'hui, c'est plus qu'une activité complémentaire. Pour certains bateaux, c'est presque une activité primordiale et qui représente plus de la moitié de leur chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est des petites unités de 9 à 14 mètres. Et c'est très réglementé. Je vais rentrer dans les détails tout à l'heure. L'idée, c'est de pas scier la branche sur laquelle on est assise. Ça, c'est un peu le leitmotiv qu'on a sur la gestion. Donc je vous ai fait un petit tour sur les métiers, un historique des débarquements en criée de Saint-Jean-de-Luz, donc là à gauche depuis 1945. Vous avez en bleu les données de la criée de Saint-Jean-de-Luz et en rouge les données de la criée d'Andaille. Parce qu'à un moment donné, à l'époque où je suis né, il y a eu une petite scission, il y a eu une création d'une criée à Andaille. Bon, c'est juste pour vous montrer un peu l'évolution des débarquements de pêche fraîche. Je ne parle pas de pêche congelée, parce que là, sinon, on compare ce qui n'est pas comparable. Tout ça pour vous montrer qu'aujourd'hui, on est quand même sur des hauts niveaux de débarquement et que, globalement, la pêche locale se porte plutôt bien, même si le poids des gros navires est trop important dans les débarquements en criée de Saint-Jean-de-Luz. Si on regarde flottille par flottille, on voit que sur la petite pêche côtière, il y a des signes qui sont assez inquiétants. Et qui sont liés notamment à des problèmes de qualité des eaux, etc. Sur le graphique de droite, vous avez depuis 1913 les débarquements, et les différentes couleurs, en fait, elles montrent la proportion de certaines espèces dans les débarquements de l'époque. Et on voit très bien que de 1913 jusqu'en 1949-50, en vert, c'est la sardine, et en jaune, c'est l'anchois. Ouais, c'est ça. Donc, on a presque une pêche mono spécifique au début du XXe siècle. Et puis, tout à l'heure, vous avez vu, 1949, les premiers essais de pêche du thon à la canne. Et donc, en rouge et en gris, vous avez la pêche du thon rouge et la pêche du thon blanc. Donc là, on bascule, début des années 50 jusqu'au milieu des années 70, sur une pêche très ciblée sur les thons. Et puis, on revient derrière sur les débarquements plus classiques de sardines, d'anchois, et puis une succession de... Alors, il y a un trou dans la raquette, hein, parce que les années 91 à 94, on trouve, je ne sais pas pourquoi, pas beaucoup de chiffres. Début des années 2000, on a plutôt une pêche dirigée sur le maquereau, et puis on voit que depuis le milieu des années 2010, c'est vraiment le merlu qui prédomine. La criée de Saint-Jean-de-Luz, en 2021, c'était 131 navires producteurs, donc 85 navires du territoire, BA, 12 navires du BA, mais qui sont hors du territoire. Et puis, on a des navires d'autres quartiers qui peuvent débarquer. En ce moment, vous ferez attention peut-être dans le port. Si vous voyez des bateaux qui ne sont pas BA, mais qui sont par exemple CC, comme Concarneau, ou LS, les Sables d'Olonne, c'est en fait des bateaux qui sont descendus dans le sud du golfe de Gascogne pour pêcher soit du thon rouge, soit du thon blanc, et qui le débarquent en fait à Saint-Jean. On a 123 entreprises d'achat, donc essentiellement des marailleurs, des poissonniers, des grandes et moyennes surfaces. Et puis, tout à l'heure, on a dit des organisations de producteurs aussi. Sur les premiers acheteurs, on a seulement 30% des acheteurs qui restent en Iparralde, c'est-à-dire en Pays Basque Nord. Donc finalement, on n'a que 30% des produits qui restent localement, tout le reste s'en va. On a 28%, on a quasiment la même quantité qui part en France hors Nouvelle-Aquitaine. On a 19% qui restent en Nouvelle-Aquitaine. Et on a 10% qui passent aussi de l'autre côté, en Aigualdé. On a 114 espèces commercialisées. La criée de Saint-Jean, elle est connue pour la qualité des produits et la diversité des produits. Et pour vous donner des ordres de grandeur, l'année dernière, donc en 2021, c'était 8400 tonnes de débarqués. Donc il y a eu une petite progression par rapport à 2020. Ça représentait 28 millions d'euros en première mise en marché et un prix moyen de 3,38 €. Le prix moyen de 3,38 €, il reflète vraiment le fait que Saint-Jean soit connu pour la qualité de ses produits. Quand on regarde les autres criées, on a des prix moyens qui sont beaucoup plus bas. Et donc, c'est la première criée de Nouvelle-Aquitaine et la première criée de France sur le débarquement de Merlu. Je vais passer rapidement. Là, je ne vais pas détailler toutes les espèces, mais quand on regarde les principales espèces débarquées, donc en tonnage, hein, la première, c'est le Merlu. C'est débarqué toute l'année. La deuxième, c'est le thon blanc. Donc là, on va avoir une saisonnalité de juin à septembre. La troisième, c'est la sardine. Donc là, on va avoir une saisonnalité de novembre à février, plutôt l'hiver. La langue franche, le thon rouge, la langue bleue, sol commune, sèche, maigre et maquereau. Donc là, c'est vraiment les 10 premières espèces débarquées en tonnage. Et ces 10 espèces, en fait, elles représentent quand même quasiment 90% des apports et 86% des valeurs qui sont générées. Donc, on a des beaux chiffres, mais au regard de ça, ça reste très fragile aussi. J'en arrête sur la filière. On a un site internet, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux. On a essayé de le documenter du mieux possible pour que vous ayez le plus d'informations possible. Je vais passer sur tout ce qui est gestion de la ressource. Parce que je vous rappelle, c'est la stratégie pêche durable. Donc d'abord, il y a un cadre réglementaire. Je vais insister un petit peu sur ça parce que souvent les gens connaissent les quotas mais ne savent pas vraiment comment, à quoi ça correspond, comment c'est réparti, etc. Et puis surtout, les quotas, c'est un outil parmi plein d'outils. Et vous verrez que, en fait, quand je vous disais tout à l'heure, j'achète un bateau, je ne peux pas aller pêcher n'importe où, n'importe comment, quand je veux. Voilà. Donc c'est une des activités les plus réglementées. On a des réglementations qui sont déclinées au niveau mondial, européen ou national. Exemple, le thon rouge, c'est une espèce, un stock atlantique, donc c'est une gestion internationale. On va avoir l'espèce comme le merlu, par exemple, là c'est une gestion européenne. Donc notre bible à nous, c'est la politique commune de la pêche au niveau européen. Et la politique commune de la pêche, pour faire très simple, elle repose sur un grand fondement qui s'appelle le rendement maximum durable. Alors, il y a une définition barbare, je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Quand ils disent la plus grande quantité de biomasse que l'on peut extraire en moyenne et à long terme d'un stock halieutique dans les conditions environnementales existantes sans affecter le processus de reproduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, c'est vraiment la durabilité. La durabilité, je vous rappelle, le terme durable, c'est environnement, social et économique. C'est pas que environnement, c'est pas que social, c'est l'ensemble des trois. Et là, en fait, c'est le point d'équilibre qui permet de dire on peut prélever jusqu'à ce niveau de tonnage sans remettre en cause le renouvellement de la génération. Le renouvellement de la population, au moins à l'identique. Voilà. Donc, c'est vraiment le principe qui veut tout régir, en tout cas, qui est toutes les mesures de gestion derrière ont cet objectif-là. Et donc, derrière, il y a plusieurs outils qui sont mis en place, dont les quotas. Donc, je vais parler des quotas parce que c'est les plus connus. Donc, les quotas, ce sont des quotas nationaux. C'est-à-dire que la France a des quotas, l'Espagne a des quotas, tous les pays européens ont des quotas. Mais avant que ce soit des quotas, au niveau européen ou au niveau international pour le thon rouge, c'est ce qu'on appelle des taux admissibles de capture. Les taux admissibles de capture, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la quantité maximale d'une espèce qu'il est raisonnable de pêcher dans une zone définie. Donc ça veut dire qu'un quota, c'est une espèce, une zone. Donc c'est la quantité raisonnable dans une zone définie afin d'assurer la pérennité de son exploitation. Et un quota, c'est donc une espèce, une zone, et parfois c'est même une espèce, une zone, un engin. Donc là déjà, ça devient plus compliqué de faire ce qu'on veut, où on veut, quand on veut. Ces TAC, ces taux admissibles de capture, ils sont calculés comment ? Chaque pays européen a une aire de répartition, des organismes scientifiques qui, chaque année, renouvellent leurs travaux scientifiques pour suivre l'état des populations et dire « on estime que la population de sol du golfe de Gascogne est de tant de milliers de tonnes. » Et qu'à partir de tant de milliers de tonnes, on pourrait mettre en péril l'espèce. Donc le TAC, il sera basé sur cette limite-là, qui est scientifiquement remise à un niveau chaque année, en fait. Et donc, ce taux admissible de capture, ensuite, il est redispatché entre chaque pays en quotas nationaux. Je vais vous donner deux exemples. L'exemple du thon rouge. Thon rouge, donc là, on a une gestion internationale. Vous avez un petit camembert ici de tous les pays qui peuvent exploiter le stock d'Atlantique Est de thon rouge. Donc on a dans les principaux pêcheurs la France, l'Espagne, l'Italie, mais on peut retrouver des bateaux comme le Canada, la Turquie, etc. Ici, la ligne noire, c'est les fameux taux admissibles de capture, c'est-à-dire quelque part l'estimation du stock total. Et les petits histogrammes qui se succèdent, donc chaque couleur c'est un pays, c'est le quota que chaque pays a pour l'autorisation de pêcher. Donc on voit qu'au fin des années 2000, début des années 2010, il y a eu de gros périls sur l'espèce, puisque le TAC est gravement descendu. Donc ça voulait dire que l'espèce était menacée à ce moment-là. Et donc tous les quotas ont été ajustés. Et on voit finalement que l'efficacité de la mesure de gestion... Alors le thon rouge, c'est un poisson qui a un cycle de vie assez long, donc du coup c'est un peu plus long à se rétablir. Mais on voit que sur les efforts qui ont été portés sur 6, 7, 8 ans, ils ont porté leurs fruits parce qu'aujourd'hui, en 2022, on est à un niveau de TAC qui n'a jamais été estimé depuis 1998, depuis que ça existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population de thon rouge, elle n'a jamais été estimée aussi haute. Et du coup, on réadapte les quotas en fonction de la population. Donc voilà un exemple de rétablissement grâce aux quotas. Un autre exemple, l'anchois. Alors, l'anchois, c'est un petit poisson pélagique, très nombreux, avec un cycle de vie très court. Donc là, il y a carrément eu des interdictions. Milieu des années 2000, de mémoire. Oui, c'est ça, 2006-2009, cette période-là. Et encore une fois, on voit que les efforts portés pendant 4 ou 5 ans ont porté leurs fruits parce qu'on est revenu au niveau de TAC d'avant problématique sur l'espèce. Alors, j'anticipe une question parce que ça doit sûrement vous étonner qu'il n'y ait que deux couleurs là. Sur l'anchois du golfe de Gascogne, il y a deux pays qui se partagent le gâteau, c'est la France et l'Espagne. Et l'Espagne est en rouge, je n'ai pas été original, et la France est en bleu. Et en fait, ces quotas, cette répartition entre pays, elle est calculée sur des antériorités, sur des traditions de pêche. Et donc, quand ont été mis en place les quotas, et notamment au moment où l'Espagne est rentrée dans l'Union européenne, en 86-87, on a regardé sur les 3-4 années précédentes les débarquements d'anchois espagnols et les débarquements d'anchois français. Et en fait, on s'est rendu compte que sur le golfe Gascogne, 90% de l'anchois qui était pêché, c'était pêché par les Espagnols et 10% par les Français. Et on est resté, du coup, sur cette, ce qu'on appelle cette stabilité relative, qui aujourd'hui est un peu contraignante, parce que si on a des jeunes qui veulent rentrer et qui veulent se mettre à la pêche, on est bloqué par ces règles-là aussi. Donc, dans les futures évolutions qu'on aimerait avoir, c'est peut-être un peu des réajustements de répartition des quotas. Un autre type de graphique, c'est un diagnostic que fait l'IFREMER chaque année, donc en 2021, pour savoir des stocks qui sont exploités dans le golfe de Gascogne, on estime qu'il y a aujourd'hui 61% qui sont des stocks en bon état et 7% des stocks qui sont en cours de reconstitution ou reconstituables. Dans les 7%, vous avez le thon rouge. Je crois qu'il est reconstitué et non plus reconstituable. Donc voilà, l'objectif, c'est évidemment à terme d'arriver à 100%. Mais quand on regarde la chronologie depuis le début des années 2000 et qu'on regarde les courbes vertes notamment, ou la courbe rouge qui dit là on est en surexploitation, on voit quand même qu'il y a eu des efforts de fait et qu'on est en train de récolter les bénéfices. Donc là j'ai parlé des quotas, finalement c'est les droits de pêche. L'autre chose c'est les droits d'accès à la ressource. Pour par exemple, il y a des autorisations européennes de pêche, des autorisations nationales de pêche ou des licences. L'objectif, c'est de limiter la pression de pêche sur des espèces qui sont réglementées. Grosso modo, tous les bateaux ne peuvent pas pêcher toutes les espèces. Donc les autorisations de pêche européennes, elles vont décider d'où donner l'autorisation de pêcher une espèce dans une zone donnée avec un métier donné. Je vous l'ai mis en rouge, par exemple, il y a l'autorisation européenne de thon rouge. Il y a l'autorisation européenne de thon tropicaux. Il y a des autorisations européennes de filets fixes. Donc là, on n'est plus sur une espèce, on est sur un engin. Ensuite, il y a les autorisations nationales de pêche. Donc là, qui sont délivrées par l'État. Exemple, autorisation nationale de pêche de l'anchois, de la baudroie, du cabillaud en mer celtique. Puis en Suisse, on a des licences nationales. Là, c'est les professionnels qui vont au-delà de la réglementation et qui disent on va y aller batché, on va limiter l'accès à la ressource. Typiquement, le bar, la licence MEA, c'est la licence qui autorise à pêcher les espèces migratrices, ou la licence crustacée. Et puis après, on a les licences régionales. Là encore, c'est les professionnels, et c'est même les professionnels locaux qui peuvent aller plus loin que la réglementation. Et donc là, typiquement, sur les algues rouges, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est limité. L'activité de la bolinche, c'est limité. Les céphalopodes aux arts traînants, c'est-à-dire au chalut, hein, tout simplement, ça aussi c'est limité. Et donc vous avez à droite, par exemple, en 2022, je vous disais, tout le monde ne peut pas pêcher tout. En 2022, on a 32 navires immatriculés à Bayonne qui sont détenteurs d'une autorisation de pêche du thon rouge. Donc ça veut dire que tous les navires locaux ne peuvent pas pêcher de thon rouge. Et en bas, vous avez par exemple l'évolution du nombre de licences de migrateurs. Cette évolution-là, qui a été voulue par, en tout cas votée par les pêcheurs, elle s'est adaptée aussi aux populations exploitables qu'ils avaient en face d'eux. Ensuite, il y a un autre outil, c'est les tailles minimales de commercialisation. Il y a certaines espèces qui ont des tailles minimales en dessous desquelles on ne peut pas débarquer le poisson. Et ces tailles minimales, elles ne sortent pas du chapeau non plus. C'est des travaux, ça fait partie des travaux scientifiques qui sont faits chaque année, avec des échantillonnages en mer, des échantillonnages en criée, qui permettent d'établir des relations entre la taille et le poids du poisson et l'âge. L'âge et surtout l'âge de reproduction, qui va déterminer bien souvent la taille en dessous de laquelle on va estimer que le poisson ne s'est pas encore reproduit. Donc c'est un juvénile. Et donc si c'est un juvénile, on essaie de le préserver au maximum. Et donc, comment limiter la capture de poissons de taille indésirée, on va dire, trop petit? Et c'est ce qu'on appelle les mesures techniques des engins de pêche. C'est-à-dire qu'on va réglementer, par exemple, le maillage des filets ou le maillage des chaluts. On peut réglementer le nombre d'engins autorisés. Le but du jeu, c'est de vraiment améliorer la sélectivité et d'éviter... Alors, le risque zéro, il n'existe pas. Il arrive d'avoir des poissons hors taille qui sont pêchés. Mais, en tout cas, tout est fait pour minimiser ce risque. Je vous ai donné un exemple souligné en rouge. Donc, le merlu, on ne peut pas le débarquer au filet fixe avec une maille de filet qui soit inférieure à 100 mm, à 10 cm. Donc, ça veut dire qu'on va sélectionner des gros individus. Ensuite, on a les repos biologiques, les périodes de pêche. Je vais passer assez rapidement dessus. C'est que on a défini dans la littérature scientifique qu'il y a certaines zones où il y a certaines zones et certaines espèces qui se reproduisent à certaines périodes. Et à ce moment-là, on les laisse tranquilles. Le but du jeu, c'est toujours pas de scier la branche sur laquelle on est assise. Et que si on veut pêcher dans 10 ans, ça veut dire que les petits, il faut qu'ils grandissent. Réglementation à l'initiative des pêcheurs locaux, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, au-delà de tous ces cadres réglementaires imposés, les pêcheurs locaux, ils peuvent aller plus loin et s'imposer des choses plus importantes. Donc, toujours dans le même esprit, de limiter la pression de pêche, de préserver sa ressource, de préserver le milieu dans lequel ils travaillent et dont ils sont intimement dépendants. Et puis aussi de partager l'espace et de contribuer à la bonne cohabitation des différents métiers. Donc, par exemple, nous, les pêcheurs locaux, c'est eux qui se sont imposés de geler le nombre de licences, de migrateurs, d'algues rouges, de bollinges. Ils ne sont pas obligés de le faire, mais ils l'ont fait. C'est eux qui ont mis en place un cantonnement de pêche au filet calé. C'est-à-dire qu'il y a une zone dans le gouffre de Cabreton, depuis 1999, où il est interdit d'aller poser un filet. Ils ont interdit, la réglementation nationale interdit le chalutage dans la bande des 3000. Ben, eux, ils ont été plus loin. Au sud du gouffre de Cabreton, depuis les années 93, ils ont interdit le chalut de fond dans la bande des 6-12 000 et le chalut pélagique carrément dans la bande des 12 000. Ce qui fait qu'en fait, au sud du gouffre de Cabreton, il n'y a quasiment pas de chalutage. Il y a le cantonnement de pêche sur la commune de Guétary, qui était plutôt pour préserver les oursins à ce moment-là. Et puis, ils ont mis en place aussi des mesures de gestion pour réduire des captures accidentelles de salmonidés, notamment en zone côtière. Donc là, vous avez un exemple du gouffre de Cabreton. Hein. On a l'Espagne ici, Hendaye, on a Cabreton et le gouffre qui démarre. Et donc toute la zone rouge, là, c'est la zone d'interdiction de pose des filets. Et toute la zone pointillée, c'est la zone d'interdiction de chalutage. Donc vous avez bien vu qu'on avait plutôt des petits bateaux, des petits métiers, une petite pêche côtière, pêche artisanale, et qui s'est aussi donné les moyens de préserver au maximum sa ressource et ses milieux.
Stratégie de pêche durable des pêcheurs basco-landais. Vous venez de suivre la première partie de l'intervention de Nicolas Susperegui, scientifique chargé de mission au comité des pêches 64 et 40. Dans cette première partie, il nous a parlé de la filière pêche locale et des actions réglementaires. La semaine prochaine, vous pourrez entendre la seconde et dernière partie de l'intervention de Nicolas Susperegui sur la valorisation des produits et sur la responsabilité environnementale. L'eau des hommes et les hommes de l'eau. Les mardis de l'été 2022 à Saint-Jean-de-Luz, un cycle de conférences proposé par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan.